Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'avenir judiciaire de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir. Sa destitution soulève évidemment la question d'un éventuel procès. D'ailleurs, les manifestants toujours présents devant le quartier général de l'armée réclament notamment que le futur gouvernement de transition juge l'ancien président. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme demandent aux nouvelles autorités de livrer immédiatement Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale. Cela fait 10 ans que la CPI poursuit Omar el-Béchir pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre au Darfour. Le Darfour, c'est dans l'ouest du Soudan où la répression, rappelons-le, a fait 300 000 morts selon les Nations Unies. Alors quel avenir judiciaire pour el-Béchir? Faut-il l'extrader vers la CPI, le juger au Soudan, ou au nom de la réconciliation nationale, doit-il finalement bénéficier d'une amnistie? C'est le débat du jour, vous nous rejoignez, c'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Plusieurs centaines de commentaires postés sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Vous continuez évidemment et vous nous appelez au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions sur l'actualité pour mieux comprendre les sujets qui vous interpellent. Nous prendrons d'ailleurs plusieurs questions sur le Soudan. Mais d'abord, des questions sur la région de Fukushima au Japon. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Merci de nous appeler du Mali, nous vous écoutons.
Oui Juan, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour les Françaises et les Français et exprimer ma profonde tristesse pour cet incendie qui a consumé en partie la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Ouais, Notre-Dame de Paris, joyau historique, patrimoine mondial de plus de 8 siècles, ravagé par les flammes. Vous l'avez suivi sur l'antenne de RFI avec notamment l'édition spéciale ce matin présentée par Arnaud Pontus. En tout cas, Catherine Potet le disait il y a quelques instants dans son journal, l'ensemble du feu est désormais éteint. Revenons donc à ce qui vous intéressait initialement, Blaise, cette décision du gouvernement japonais concernant la zone de Fukushima.
Oui, le gouvernement japonais a décidé que les habitants peuvent revenir à Fukushima dans un rayon de 60 km. Peut-on savoir qu'est-ce qui a motivé le gouvernement japonais à prendre une telle décision, alors que plusieurs ONG critiquent en dénonçant un taux de radioactivité très élevé dans cette zone?
Ouais, c'est vrai que 8 ans après la catastrophe nucléaire, le gouvernement a levé l'ordre d'évacuation des 2 petites villes les plus proches de la centrale de Fukushima, ravagée par un tsunami en mars 2011. Bonjour Frédéric Charles.
Bonjour.
Correspondant de RFI au Japon, depuis la semaine dernière, les habitants peuvent donc revenir dans ces 2 villes. Il n'y a aucune restriction concernant par exemple les enfants ou les personnes âgées. Alors, que Blaise le rappelait à l'instant, il y a plusieurs ONG qui affirment que la radioactivité est encore très présente sur zone. Comment expliquer cette décision des autorités?
Eh bien, dans l'immédiat, les Jeux Olympiques de Tokyo de 2020. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe veut profiter de l'hypermédiatisation des Jeux pour proclamer un retour à la normalité dans la région de Fukushima, 8 ans après le tremblement de terre de force 9 sur l'échelle de Richter, tremblement de terre qui avait été suivi d'un tsunami géant qui a coûté la vie à plus de 18 000 personnes, et de l'accident nucléaire de Fukushima qui n'a encore tué personne. La flamme olympique partira de Fukushima. Des matchs de baseball seront organisés dans la région. Le gouvernement japonais accélère donc l'application de sa politique de retour des habitants dans l'ex-zone interdite de Fukushima, un rayon de 60 km autour de la centrale. La plupart des ordres d'évacuation ont déjà été levés. Pour la première fois, vous le disiez, une telle décision a été prise pour 2 localités, Okuma et Futaba, qui abritent la centrale de Fukushima. L'interdiction d'habitat ne porte plus aujourd'hui que sur 3% du territoire de la préfecture.
Et pour affirmer que la situation est redevenue normale à Fukushima, le gouvernement, Frédéric Charles, a relevé le niveau acceptable d'exposition à la radioactivité.
Oui, il a relevé ce niveau à 20 millisieverts par an, un niveau équivalent, à celui autorisé pour les ouvriers des centrales nucléaires. À l'origine, le niveau était seulement de 1 millisievert par an. Selon le gouvernement, un tel niveau d'exposition à la radioactivité, 20 millisieverts par an, entraîne des risques de cancer beaucoup plus faibles que le tabagisme ou l'obésité. Ce niveau est comparable au risque dû au stress résultant de l'évacuation de 140 000 personnes des zones les plus proches de la centrale de Fukushima au moment de l'accident nucléaire. Selon Greenpeace et d'autres ONG, la radioactivité actuelle va durer des décennies. On ne peut exposer quelqu'un à de telles doses de radioactivité sur une aussi longue période. Pour les Nations Unies, ce seuil de 20 millisieverts par an, un niveau autorisé pour les ouvriers des centrales nucléaires, ce seuil est trop haut pour les enfants et les femmes en âge de procréer.
Voilà, donc un seuil remis en cause par des ONG et par les Nations Unies. Vous aviez une autre question, Blaise ?
Oui. La grande partie de ses habitants ne souhaite pas revenir. Quelles mesures le gouvernement japonais a pris pour attirer de nouveaux habitants dans cette zone carrément déserte ?
Et Frédéric Charles.
Eh bien, la plupart des habitants de Fukushima sont partis et ne sont pas revenus. Pourtant, le gouvernement est décidé à reconquérir son environnement à Fukushima. Le démantèlement de la centrale prendra près d'une quarantaine d'années. Le gouvernement a lancé un ambitieux programme de décontamination des routes, des champs, des aires de jeu, des bâtiments et de leurs alentours. Le reste, pour l'essentiel des forêts, est impossible à décontaminer. La radioactivité a beaucoup baissé à Fukushima. Pour la localité la plus proche de la centrale, Okuma, l'exposition à la radioactivité est de 2 à 3 millisieverts par an. Le problème est que ce niveau est établi sur la base de mesures effectuées à un mètre du sol et que des pointes bien plus élevées, des hotspots, sont relevées à 1 cm du sol. 140 000 personnes ont été évacuées au moment de l'accident. 90% d'entre elles sont parties pour refaire leur vie ailleurs. Celles qui rentrent sont des personnes âgées et encore, elles ne passent pas la nuit dans leurs habitations en raison de la crainte de la radioactivité.
Et des ONG, on en parlait tout à l'heure, affirment que ces populations sont mises en danger en retournant sur zone.
Oui, vous avez un autre facteur, un autre élément, c'est d'ordre économique. Le gouvernement est en train de réduire les subventions au logement qu'il accorde depuis 7 ans aux victimes de l'accident nucléaire, victimes qui vivent souvent loin de Fukushima, aujourd'hui à Tokyo, Osaka, ailleurs. Le gouvernement prévoit de stopper ces aides aux habitations, aux logements. Il prévoit de les stopper d'ici mars 2021, ce qui revient à forcer le retour à Fukushima des personnes les plus démunies, celles qui n'ont pas les moyens de vivre ailleurs.
Ouais, des habitants qui, pour des raisons financières, sont donc contraints au retour. Blaise, on vous souhaite une bonne journée à Bamako. Merci de nous avoir appelés de la capitale malienne. Merci à Frédéric Charles, notre correspondant au Japon, 10h19 à Paris. D'autres questions, évidemment, au 33 9 693 693 70. Bonjour Salif.
Oui, bonjour Juan.
Vous nous appelez de Dakar, au Sénégal. Nous vous écoutons.
Voilà, merci beaucoup. Amnesty International a publié un rapport dans lequel elle annonce que le nombre d'exécutions est en baisse dans le monde. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette baisse? On sait que le nombre d'exécutions a baissé, mais qu'en est-il du nombre de condamnations à mort?
Alors, bonne question, effectivement. C'est vrai que selon Amnesty International, le nombre d'exécutions capitales dans le monde est même au plus bas niveau depuis 10 ans. Bonjour Anne-Denis.
Bonjour.
Responsable de la commission abolition de la peine de mort pour Amnesty International. 690, c'est le nombre d'exécutions capitales que vous avez enregistrées en 2018. 690 contre 993 recensées en 2017. Comment expliquez-vous cette baisse?
Alors, c'est une baisse considérable, mais elle est due essentiellement à une diminution d'exécution dans des pays qui, habituellement, exécutaient le plus. Alors, celui qui exécutait le plus, c'est l'Iran, pour lequel on avait des chiffres, mais la diminution en Iran est de à peu près 50%, car l'Iran a modifié sa législation sur la drogue donc sur les modifications qui ont été apportées à la loi contre le trafic de drogue, mmh. a amené une baisse importante du nombre d'exécutions. D'autres pays aussi ont réduit leurs exécutions, telles que l'Irak et le Pakistan.
Et en, et en même temps, vous enregistrez aussi une hausse des exécutions dans plusieurs pays. Donc cette baisse, elle n'est pas générale.
Non, elle n'est pas générale. Elle n'est pas générale. Elle touche essentiellement les pays qui exécutent le plus. Alors, le pays qui exécute le plus dans le monde, c'est la Chine. Mais comme en Chine, la peine de mort, c'est un secret d'État, Amnesty International ne publie pas de chiffres puisque nous n'avons aucun chiffre vérifié. Ensuite vient l'Iran, et effectivement, la baisse en Iran amène une baisse, une chute des exécutions. Mmh. Ensuite, l'Irak, mais l'Arabie Saoudite est à peu près stable au niveau des exécutions. Et alors, nous avons un nouveau pays qui a émergé dans les statistiques, c'est le Vietnam. Alors, pourquoi auparavant on ne parlait pas du Vietnam ? C'est parce que, effectivement, comme en Chine, la peine de mort est un secret d'État. Et c'est la première fois, en 2018, que les autorités vietnamiennes ont communiqué à Amnesty International le chiffre de 85 exécutions.
D'accord. En tout cas, ce que je retiens, Anne-Denis, c'est qu'il faut tout de même relativiser cette baisse, puisque vous ne disposez d'aucun chiffre concernant les exécutions en Chine, où, vous le disiez, les statistiques sont classées secret défense, et certaines ONG, dont la vôtre, Amnesty International, estiment qu'il faut compter par milliers le nombre d'exécutions chaque année. La ligne téléphone n'est pas très bonne, Anne-Denis, donc en quelques mots, que pouvez vous nous dire concernant le nombre de condamnations à mort ? Oui, le nombre d'exécutions a baissé, mais qu'en est-il des condamnations à mort ?
Alors, les condamnations à mort sont à peu près stables, mais c'est comme si vous voulez pour les exécutions. Les chiffres peuvent varier suivant les communications faites par les États. Pour les condamnations à mort, effectivement, on a une très légère baisse. Mmh. Mais les informations données par le Nigeria, qui, on le sait, condamne bien à mort, ne sont pas complètement vérifiées. Au Sri Lanka et en Zambie, on sait qu'il y a eu des hausses également, mais nous n'avons pas de chiffres vérifiés.
En tout cas, il y a une stabilité concernant les condamnations à mort en 2018. Merci Anne-Denis d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Salif de Dakar au Sénégal, où il nous écoute sur les 92 FM. À Dakar, il est 8h23. Des questions maintenant sur le Soudan, la situation au Soudan qui ne vous laisse pas indifférent, si j'en crois le nombre d'appels que nous recevons pour commenter l'évolution de la situation, mais aussi pour nous poser des questions. Denebo, bonjour.
Bonjour Anne Gomez.
Merci.
Et bonjour à tous les auditeurs de la radio France Internationale.
Merci de nous écouter à Abidjan. On vous écoute, soyez le bienvenu.
Ok, merci beaucoup Juan. Et avant ma question, je voudrais en tout cas remercier votre équipe d'Appel sur l'actualité. Ils sont beaucoup professionnels. Félicitations à vous.
Eh bien, merci de saluer le professionnalisme de mon équipe. Ça fait toujours plaisir à entendre. Et ils sont ravis, évidemment, d'être félicités par les auditeurs. Denebo, vous souhaitez revenir sur la transition qui s'annonce au Soudan ?
Oui, Juan Gomez. Le Conseil militaire de la transition a demandé à l'opposition et à la société civile de trouver une personnalité pour diriger le futur gouvernement de la transition. Ma question est la suivante. Quelles sont les personnalités qui pourraient faire consensus ?
Ah, c'est une bonne question. Pour tout vous dire, Denebo, je me suis posé exactement la même question en écoutant dimanche le Conseil militaire demander aux partis politiques soudanais de se mettre d'accord sur une personnalité indépendante qui deviendrait Premier ministre. Clément Day, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste du Soudan, chercheur à l'université Paris 8 et au sein du think tank Laboratoire d'idées Noria Research. Concrètement, est-ce qu'il y a une personnalité aujourd'hui qui peut faire consensus, qui peut émerger pour diriger cette transition, le gouvernement de transition ?
Pour l'instant, on n'en est pas encore là. En fait, la question du Premier ministre était une sorte de piège qui a été tendu par l'armée aux forces d'opposition en leur disant en quelque sorte on vous donne le poste de Premier ministre, mais on garde l'effectivité du pouvoir dans le Conseil militaire. L'opposition a refusé évidemment cette possibilité et a présenté hier une liste de 10 points pour demander le transfert intégral du gouvernement du pouvoir à un gouvernement civil. Et en fait, cette question, elle pose la question de la réelle transition. Aujourd'hui, les forces d'opposition sont plus dans une tactique et une stratégie de rassemblement, d'unité, plutôt que d'essayer de faire émerger des personnalités. L'enjeu...
Mais à un moment donné, Clément Day, il va bien falloir qu'une personnalité de la société civile, ou en tout cas une personnalité civile, émerge.
Bien sûr, mais ces personnalités, pour l'instant, l'opposition essaye de ne pas les faire émerger pour rester dans une dynamique d'unité et pas de division, parce que forcément, il y aura des personnalités plus ou moins clivantes et qui pourront plus ou moins rassembler. Donc pour aujourd'hui, l'opposition n'a aucun intérêt à donner des noms et à faire émerger une personnalité. Il y a évidemment des gens au Soudan qui ont une histoire et une légitimité historique. On parle d'anciens politiciens ou de gens qui ont travaillé depuis longtemps sur les questions des droits de l'homme en lien avec le Darfour, qui pourraient incarner ce type de personnes. Mais pour l'instant, l'opposition se garde de faire circuler ces noms-là.
Elle attend d'abord la dissolution notamment du Conseil militaire. Autre question, Youssoufa, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour les auditeurs, notamment ceux de Gao.
Gao, d'où vous nous appelez, au Mali, évidemment. Nous vous écoutons avec Clément Day.
Ok, mes questions, je veux savoir, que compte faire la CPI maintenant que Omar El-Béchir est destitué? Quelles sont les chances de voir l'ex-président transféré à la haie?
Ah, question récurrente au standard, Clément Day, l'avenir judiciaire de l'ex-président soudanais. Que compte faire désormais la Cour pénale internationale qui traque l'ancien président depuis 10 ans maintenant?
Alors, la CPI va attendre un petit peu et est en train d'attendre de qu'on voit émerger quelque chose au Soudan, parce que la situation est très floue. On sait qu'El-Béchir a été censé être arrêté par le Conseil de transition militaire, mais en fait, on n'a aucune preuve de la réalité de cette arrestation. Aujourd'hui, le Conseil militaire a dit qu'il n'extraderait pas El-Béchir. L'opposition, elle, réclame des preuves de son arrestation et un jugement d'El-Béchir, mais est divisée pour savoir si il faut extrader El-Béchir auprès de la CPI ou le garder et le juger au Soudan. En cas de jugement au Soudan, il va falloir d'abord réformer l'institution judiciaire qui est complètement contrôlée par les membres de l'ancien régime. Et donc en fait, la question de l'extradition vers la CPI révèle énormément de problèmes politiques au Soudan, car personne n'est vraiment d'accord et personne ne sait vraiment quoi faire avec cet ancien président.
Oui, d'ailleurs, faut que vous parlez du Soudan, mais on peut dire que de façon générale, depuis 10 ans, personne n'a coopéré avec la Cour pénale internationale s'agissant d'Omar El-Béchir. Même des pays qui reconnaissent la CPI, qui ont ratifié le statut de Rome, n'ont pas essayé d'arrêter ou d'interpeller ou d'inquiéter Omar El-Béchir lorsqu'ils étaient sur leur territoire.
Non, absolument, vous avez complètement raison. Omar El-Béchir a fait plus de 150 voyages depuis son inculpation par la CPI et n'a jamais été inquiété. Et d'ailleurs, on se concentre beaucoup sur Omar El-Béchir, mais il y a beaucoup de membres de l'ancien régime qui sont aussi poursuivis par la CPI. Je crois que c'est 16 ou 17 personnes. Et donc, l'enjeu de l'extradition de toutes ces personnes-là est très fort politiquement au Soudan.
Et on aura l'occasion d'en débattre dans 10 minutes avec les auditeurs de RFI. Faut-il extrader Omar El-Béchir vers la CPI, le juger au Soudan, ou pourquoi pas lui accorder une amnistie au nom de la réconciliation nationale? 33 9 693 693 70. Clément Day, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, spécialiste du Soudan. D'autres questions à la rédaction demain. D'ici là, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. On a forcément besoin de connaître vos questions avant de commencer l'émission pour contacter justement nos envoyés spéciaux, nos correspondants et nos experts. À suivre, la dernière édition d'Afrique Matin avec l'ensemble du service Afrique de RFI.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.